grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Jean-Baptiste Moulimba Makoubi. Il est compagnon de feu Laurent Désiré Kabila et ancien président délégué général de l'Office des biens mal acquis, qui n'existe plus malheureusement. Monsieur Moulimba, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio des Radio Kapi et bienvenue.
Merci.
Alors avec vous dans notre entretien, comme je l'ai dit, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Kapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiokapi.net. Vous nous parlerez de votre rencontre avec Laurent Désiré Kabila, mais aussi on va évoquer un rôle très important que vous avez joué lors de l'entrée des troupes de l'AFDL à Kinshasa. Vous étiez en contact avec le général Maélé pour faciliter le couloir aux troupes de l'AFDL. On va en parler dans cette émission, mais également votre passage à l'Office des biens mal acquis qui n'existe plus malheureusement.
Hélas.
Alors, avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Moi, je suis né ici à Léopoldville à l'époque. Maintenant, on dit qu'il sait ça, mais moi, je suis né en 1943.
À l'époque de Léopoldville?
Oui, en 1943, c'était pas encore. Alors, il y avait le quartier qui sait ça, mais la ville s'appelait Léopoldville. Et je suis né là, dans ce qui est aujourd'hui la commune de Lingwala. De notre temps, c'était le quartier Saint-Jean-Baptiste de la Salle, en abrégé quartier Saint-Jean, qui est devenu commune Saint-Jean et en 57. Et puis après, en 66, je crois, c'est devenu commune de Lingwala. Lingwala, simplement parce qu'il y avait un cimetière. Là où se trouve la RTNC aujourd'hui,
il y avait un cimetière.
Et en Lingala, cimetière, c'est Lingwala. Quand je vais au cimetière, donc Nakeïn à Lingwala.
Mais on emploie ça rarement, hein. Nakeïn à Lingwala, c'est plus, beaucoup plus Nakeïn cimetière.
Ah, oui, mais nous, on dit, enfin, de notre temps, c'était le classique, hein, le Lingala, c'était une langue classique, on devait parler ici. Donc Lingwala, ça veut dire cimetière.
Cimetière. Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance.
Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'en 1956. Et en 1956, on a déménagé pour aller à ce qu'on disait Nouvelle Cité, donc Mbokasika. Donc je suis allé dans ce qui est devenu la commune Ngiringiri. C'est là où j'ai grandi aussi, jusqu'en 1965, je suis parti en Europe.
Quels sont les souvenirs qui vous ont marqué pendant cette période-là?
Quand je suis enfant, bon, comme tous les enfants, on va à l'école, et de notre temps, l'enseignement était carrément dans les mains des confessionnels. Donc moi j'étais dans une école protestante d'abord, et puis après je suis allé à l'école catholique. Alors j'ai terminé mon école primaire chez les catholiques, et on m'a envoyé à Sainte-Anne ici, donc au collège Saint-Joseph, parce que à ce moment-là, c'était la sélection se faisait en fonction des résultats à l'école primaire. Alors tous ceux qui avaient plus de 80% devaient aller au collège Saint-Joseph.
Et vous étiez envoyé à Saint-Joseph parce que vous étiez parmi les élèves intelligents.
J'avais plus de 80% à l'école primaire.
Donc, en rapport que vous étiez appliqué, assidu à l'école.
Enfin, on doit croire, oui. C'est ça.
Et donc après vos humanités, vous...
Non, quand j'ai fait Sainte-Anne et puis j'ai quitté Sainte-Anne, bon, à la suite d'une altercation avec un professeur, je suis allé donc à l'Athénée. À l'Athénée maintenant de Ngiringiri. C'est là où j'ai terminé mes études secondaires.
Vous avez fait quoi comme études?
Moi, j'ai fait ce qu'on appelait MATLM, c'est-à-dire mathématiques élémentaires, ou les humanités modernes et scientifiques A, qui est maintenant, on appelle maths physique. Mais nous, de notre temps, on disait scientifique A. J'étais dans la première promotion de ceux qui ont terminé les humanités modernes à l'Athénée d'Ngiringiri. Parce que jusqu'en 1961, chaque fois qu'on était en quatrième moderne, après on devait aller à l'Athénée de Kalina. Mais à partir de 1961, le préfet, M. Henri de Bouge, a dit non, moi aussi je dois avoir le cycle secondaire supérieur des humanités. Alors c'est comme ça que nous, on a commencé. Donc on a terminé la première promotion.
Donc vous avez un diplôme d'État en maths physique.
De notre temps, ce n'était pas le diplôme d'État.
Maintenant, on appelle ça
homologué.
Homologué aujourd'hui, voilà, qu'on appelle diplôme d'État en maths physique.
Ouais.
Et c'est seulement après que vos parents vous envoient en Europe.
Non, comment vous retrouvez en Europe? J'ai obtenu une bourse d'études Et puis je suis allé en Europe, où j'ai fait sciences économiques et sciences politiques, à l'ILB, à l'Université libre de Bruxelles.
Licencié en sciences économiques
et sciences politiques et maître en planification économique, que j'ai fait dans une école supérieure à Anvers.
Mais après vos études, vous ne décidez pas de rentrer au pays, vous restez en Europe.
Oui, je suis resté parce que déjà j'étais engagé politiquement. Donc à ce moment-là... Moi, j'ai mon engagement politique, c'est à partir de 1959, j'avais donc 16 ans à ce moment-là. Alors j'avais commencé...
Qu'est-ce que vous a attiré?
D'abord, disons, je dirais que c'est un ami à moi, un ami d'enfance, qui était un peu plus âgé que moi, qui m'a pris comme rapporteur, secrétaire rapporteur dans leur organisation de jeunesse du Parti du Peuple. Donc le Parti du Peuple, c'est l'une des formations politiques créées en 1958 sous l'appellation Action Socialiste. C'était dirigé par M. Alphonse Ngouvoulou, les syndicalistes quoi. Alors ils ont créé, donc ils étaient d'abord cercle socialiste, ils ont créé l'Action Socialiste en 58. Ben, à partir du moment où le mot socialisme était très galvaudé ici, alors ils ont préféré dire Parti du Peuple. Et c'est en 59. Alors maintenant, il fallait, chaque parti avait une organisation de jeunesse. Alors, mon ami donc est venu me chercher pour que j'aille là-bas comme rapporteur. Comme moi, j'étais à Collège Saint-Joseph, donc il estimait que je devais bien écrire le français et tout et tout. Donc il m'a appris. Alors j'étais...
Mais vous étiez jeune quand même, trop jeune, 16 ans, j'étais encore mineur.
Ah non, mineur dans le droit européen. Il faut pas oublier que ici chez nous, quand on fait l'école, comme on dit, le cycle inférieur des humanités, donc ça durait 4 ans seulement, le cycle court. Et alors si tu commences à 14 ans, tu termines à 16. Ce qui fait que moi j'avais des collègues à moi, déjà avec lesquels j'étais aux humanités, enfin à l'école primaire, qui à 16 ans commençaient déjà à travailler, ils étaient déjà dans la vie active. Et moi, j'étais élève parce que moi, je faisais le cycle long. Alors, ces gens-là, comme on était des copains, des amis d'enfance, on se voyait, on se retrouvait et tout. Donc, on gardait la même intimité. C'est ça qui a fait que un de mes amis a préféré me prendre pour aller dans leur association comme rapporteur. Donc, c'était vraiment un peu technique. Comme j'ai commencé, donc c'était comme un petit technicien, tu dois aller là-bas comme rapporteur, donc les procès-verbaux et tout, et les gens parlaient en Kikongo, en Lingala et en français. Donc moi je devais prendre tout ça et après je devais faire les traductions. Quand les gens ont parlé en Kikongo, je dois traduire en français, quand ils ont parlé en Lingala, je traduis en français. Et le week-end prochain, je devais, au début de chaque réunion, je devais faire
le
compte rendu. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'action politique. Et dans
quoi le combat?
Nous, on est issus de l'action socialiste, du parti qui s'appelait Action Socialiste, qui est devenu Parti du Peuple. Alors nous, c'était le socialisme. Donc on avait, évidemment, pour l'indépendance d'abord, mais après l'indépendance, il faut l'instauration du socialisme dans notre pays.
Vous compreniez ce combat-là, vous, à cet âge-là?
Oui, on nous expliquait ce que c'était, donc la justice sociale et tout ça, on nous l'expliquait.
Et donc, lorsque vous terminez, vous obtenez votre diplôme de licence...
En 70.
Voilà, vous obtenez votre licence
à l'ULB.
À l'ULB, oui.
Ouais.
Vous ne rentrez pas au pays.
Non, non, non.
Vous restez en Europe.
Je reste en Europe parce que, déjà, quand j'étais dans l'action politique qu'on a engagée, donc j'ai évolué là-dedans. Donc, j'étais d'abord jeunesse du Parti du Peuple, et puis membre de la jeunesse du PNCP, Parti National de la Convention du Peuple. Et la Convention nationale, et donc le Parti de la Convention du Peuple, est l'une des composantes de ce qu'on appelait le Conseil national de libération. C'est-à-dire en 1963, à la suite de certaines fausses manœuvres, de la politique pratiquée par le gouvernement Adoula. À ce moment-là, c'est Adoula qui est au pouvoir. Mmh. Alors, il a floué en quelque sorte les Lumumbistes. Alors, les Lumumbistes ont dit que non, ils ne peuvent pas continuer dans un régime dont on ne connaissait même pas la finalité politique. Alors, ils se sont retirés à Brazzaville parce qu'il y avait maintenant l'oppression qui commençait maintenant à prendre corps ici. Ils se sont retirés à Brazzaville. Il y avait donc les partis, le MNC Lumumba, qui est dirigé par Christophe Beignet, qui est mort maintenant.
Qui est décédé.
Oui. Et puis il y avait Feu aussi, Gabriel Yumbu, qui était le secrétaire général du PSA, Parti Solidaire Africain, que dirigeait le vieux le patriarche Antoine Kizenga. Et puis il y avait maintenant le PNCP, Parti National de la Convention du Peuple. Et les trois formations-là ont constitué le Conseil National de Libération, le CNL. Moi, après la jeunesse de PNCP, j'étais devenu militant de l'UGEC, Union Générale des Étudiants Congolais. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mes études en 1964, je suis allé à l'université Lovanium, ici à Kinshasa. Alors là, à Lovanium, j'ai adhéré, j'ai intégré l'Union Générale des Étudiants Congolais, qui était dirigée par notre président, c'était Baudouin Kalonji. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à militer.
À militer, oui.
Et puis après, je suis allé en Europe, et là aussi, j'étais dans l'Union Générale des Étudiants Congolais, jusqu'à sa dissolution en 1969.
Pourquoi vous n'êtes pas rentré au pays après vos études, puisque vous étiez déjà engagé politiquement? Pourquoi ne pas revenir, vous battre ou mener votre combat au pays?
Oui, ouais, il faut savoir qu'à partir de 1965, il y a eu un coup d'État ici. Et puis le régime de Mobutu a montré sa vraie nature, c'est-à-dire que c'était un régime dictatorial. Et la dictature commençait à s'affermir. Et nous, en tant qu'étudiants, membres de l'Union Générale des Étudiants Congolais, quand on avait pris une décision ici, on a arrêté les dirigeants de l'UGEC ici en 1968, donc on a arrêté Kanza Dolumingu et puis d'autres dirigeants de l'UGEC, eh bien, nous en Belgique, on avait manifesté pour protester contre l'état d'arrestation. Évidemment, ceux qui étaient des boursiers du gouvernement congolais, on leur a arraché la bourse, et puis on a donné nos noms dans les services de renseignement. Donc c'est comme ça. Et en 69, on a tué les étudiants, ici le 4 juin 1969. Eh bien, là aussi, on a protesté.
Ça vous a révolté?
Vous étiez
en Belgique?
On a fait une manifestation devant l'ambassade du Congo à Bruxelles, rue Marie de Bourgogne. Alors là aussi, c'est toujours les mêmes. Mais nous, comme nous sommes dirigeants de l'UGEC, militants et dirigeants, et moi personnellement, j'étais dans la direction de l'UGEC en ce moment-là. Et donc, on était déjà signalés comme des gens qui combattent le régime.
Le régime.
Alors, ce qui fait qu'en ce moment-là,
c'était difficile pour vous de revenir
au pays. Ici, oui.
Et vous avez continué à mener votre combat en Europe.
À partir de l'Europe. Oui, c'est ça. Et c'est ça, de fil en aiguille, je suis devenu. On a créé un parti politique. Et puis, je suis devenu membre du Front de Libération Nationale Congolais en 1975, donc 75. Je suis devenu membre du Front de Libération Nationale Congolais. Et le Front de Libération Nationale Congolais, c'est historiquement la guerre de Chaba 1, Chaba 2. Alors à ce moment-là, moi j'étais membre de la direction du Front de Libération Nationale Congolais. Et j'étais à l'Angola et puis après je suis reparti en Europe pour assurer la propagande de FLNC pendant la guerre du Chaba 1. Et après,
c'est eux qui vous ont contacté, les dirigeants du FNLC?
Nous sommes en Europe.
Vous êtes en Europe, oui. Ouais. Vous dites que vous étiez en Angola.
Mais je suis venu en Angola dans le cadre de la solidarité avec le peuple angolais. C'est-à-dire que moi, j'étais aussi, je soutenais le MPLA. Uh-huh. Donc, je soutenais le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola. Et tout en étant GEC ou bien tout en étant militant du FNLC, je soutenais le MPLA. Donc, il y avait une action dans la guerre que l'UNITA, les FNLA et Mobutu menaient contre le MPLA. Nous, évidemment, on s'était rangé derrière le MPLA. Et ce qui fait que quand je suis allé en Angola, c'était d'abord dans le cadre du soutien, donc dans le cadre de la solidarité avec le peuple angolais, avec le MPLA. Donc je me trouvais là-bas. Et puis, j'ai rencontré des compatriotes. Et on a discuté avec eux. Et finalement, j'ai été intéressé par les compatriotes à devenir membre du FLNC. Et j'ai adhéré au FLNC. C'est comme ça que je me trouvais souvent en Angola, notamment en 1977. Et c'est là où je vais rencontrer Laurent Désiré Kabila.
Donc, vous étiez entre l'Europe et l'Angola.
Voilà.
Donc, votre rencontre avec Laurent Désiré Kabila s'est passée en Angola.
Oui, en 1977. Pour la simple bonne raison, en 1977... Et nous, après avoir lancé, on a fait la première attaque, donc on appelle ici Chaba 1, il fallait essayer de renforcer, donc d'élargir le front militairement. Alors à ce moment-là, on a pris langue avec le PRP, Parti de la Révolution Populaire, de Laurent Désiré Kabila. En 1977, on devait sceller l'alliance entre le PRP et le FLNC. C'est en 1977. Alors, parce qu'on avait créé le Conseil suprême de libération, CSL. Laurent Désiré Kabila est arrivé en Angola, et moi, je me trouvais déjà là-bas. Donc, on a eu à se rencontrer, d'autant plus qu'on logeait dans le même hôtel Tropico.
Vous le rencontrez en Angola, vous avez tous le même objectif,
ouais.
C'était faire tomber les régimes
des dictatoriaux qui étaient à la tête de nos pays. Lui en tant que PRP, moi en tant que FNLC.
FNLC, oui. Oui. Vous vous rencontrez.
Pour essayer plus ou moins de renforcer nos capacités en vue de combattre la dictature de Mobutu.
Vous échangez vos expériences, chacun de son côté.
Exactement. Pour rêver à haute voix, comme on le disait.
C'est parti, quoi, le contact entre vous.
Ah oui, là, maintenant, nous sommes devenus non seulement camarades, mais nous sommes maintenant des amis.
Puis, vous êtes resté en contact, vous, en Europe, évidemment. Lui, en Afrique.
Oui, et puis, en 79, donc en 79, il est venu à Bruxelles comme parrain de, quand on a créé un parti politique belge qui s'appelle le Parti du Travail de Belgique, PTB. Et bien, le parrain du PTB, c'est Laurent Désiré Kabila. Donc, Laurent Désiré Kabila était venu en Belgique pour baptiser en quelque sorte le nouveau parti politique belge PTB. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé en Belgique. Et on a discuté longuement, on a dit comment, ce qu'il faudra faire et tout. Donc on était toujours en contact permanent.
Pendant des longues années, des longues
épistolaires,
années.
Oui, oui.
Vous êtes restant en contact. Jusqu'au jour où il vous a fait part de son ambition de conquérir, de faire tomber le régime de Mobutu.
Ça, c'est en 96. Quand ça commence en 96, nous avons eu un pacte avec le PRP. Donc, toute action politique menée par le PRP nous intéresse. Ça, directement, dans le cadre de cette alliance qui existait entre le PRP et le FRNC. Donc, qui était le Conseil suprême de libération. Donc, en 96, quand AFDEL commence, et pour nous, l'AFDEL, c'était d'abord le PRP, c'est ce qui était intéressant pour nous, c'était le PRP. Donc, nécessairement, nous devions nous intéresser à ce combat. Donc, on a envoyé des délégués à Goma, et une anecdote, j'étais dans une voiture avec un camarade. Mais à ce moment-là, il y avait déjà les téléphones mobiles. En 96, il y avait déjà les téléphones mobiles. Alors moi, j'avais un appareil Ericsson. Et mon copain, là, qui se trouvait à Goma, il connaissait que j'avais l'appareil. Et il m'appelle. Donc, c'est le camarade Luangui Célestin. Luangui Célestin m'appelle. Il dit, Jean-Baptiste, le président, donc Laurent Désiré
Kabila,
me dit, il est d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que nous, on menait la campagne en Europe. En tant que coordination des organisations démocratiques zaïroises de la diaspora. Uh-huh. Donc on menait la campagne à travers toute l'Europe. Il y avait une section en Allemagne que dirigeait le général François Olenga. Il y avait une section en Suisse. Il y avait Cheo Kitundu avec d'autres camarades, Mutombokali, Kamila. Donc il y avait pas mal de gens. Mais moi je coordonnais tout ça. Donc tout ce qui était action de la CODESAD à travers l'Europe, en Italie il y avait Pierre Yambouya. Donc on était dans l'action concrète. Donc Célestin me dit que oui, je suis ici en face du président. Et quand lui me disait ça, j'entendais Laurent Désiré Kabila partir. Dis-lui de revenir ici, je lui donne une semaine et il doit être ici. C'est bien le travail qu'il fait là-bas, mais il doit aussi venir ici parce qu'il y a un grand travail à fournir ici. Bon, et moi je dis, bon, je ferai les démarches. Si cela peut aboutir dans une semaine, je viendrai. Sinon, bon, je viendrai dès que les démarches seront terminées. Et effectivement, je suis allé par le Rwanda. J'ai été à l'ambassade du Rwanda, j'ai obtenu le visa. Je suis arrivé à Kigali et de Kigali, je suis allé à Goma. Nous avons pris Kisangani, on a pris Lubumbashi, et puis entre-temps, la colonne dirigée par le général Mufu traversait carrément le Congo, donc Shabunda, Kindu et tout ça, jusque ce n'est qu'à Kenge où il y a eu maintenant la résistance.
Monsieur Moulimba, lorsque Laurent Désiré Kabila vous dit, ça y est, c'est bon, on va y aller, maintenant on va foncer, voilà. Vous y avez cru, vous avez cru vraiment que vous alliez faire tomber le régime de Mobutu?
Moi je suis un combattant de la liberté. Je m'engage pour un objectif. Mais je ne dis pas que cet objectif serait à court terme. Je ne dis pas, je combats. Je sais quand je combats, quand je débute le combat. Mais je ne sais pas quand ce combat-là finira. Voilà. Donc, quand on s'engage dans la lutte, c'est en fonction de l'idéal qu'on poursuit. Et notre idéal, c'était renverser la dictature Mobutu pour restaurer la démocratie dans notre pays. Et surtout, l'indépendance, donc la souveraineté nationale du peuple congolais. Parce que, bon, on peut se dire indépendant sans être souverain. Alors que nous, on se battait pour la souveraineté nationale du peuple congolais.
Depuis 1996 jusqu'à la prise de la ville de Kinshasa, vous étiez au Congo.
Ah, je suis resté là, au Congo.
Au front aussi, ou bien vous étiez...
Non, moi, je suis cadre politique, donc je suis maintenant conseiller près du secrétariat général de l'AFDL.
Alors, arrivé au niveau de Kongé,
Kengela, c'est la résistance des forces mobutistes, c'est-à-dire principalement de l'UNITA. Ce n'était pas l'armée congolaise qui se battait à Kenge, c'était l'UNITA. L'UNITA avec 6000 combattants. Donc Savimbi avait aligné 6000 combattants pour défendre l'entrée de Kinshasa. Ceci était soutenu par la DSP, donc les milices mobutistes de la DSP. Mais nous sommes des experts dans la guerre des guérillas. Parce que quand on dit tigre, ça veut dire troupes, infanterie de la guérilla révolutionnaire. Alors, on est allé, donc ces gens-là, ils ont mené maintenant la guérilla urbaine et pour faire partir les
combattants.
Les Savimbi, ils ont pris la fuite, ils sont rentrés en Angola et les forces mobutistes ont pris la fuite, ils ont traversé le territoire de Kwamout pour gagner le Congo-Brazzaville. Entre-temps, la voie était libre maintenant pour prendre la ville de Kinshasa. Ce qui a été fait dans la nuit du 16 au 17.
Le 17 mai 1997,
bien entendu.
Voilà, je l'ai dit dans mon introduction que vous avez joué un rôle très important lors de la prise de la ville de Kinshasa. Vous étiez en contact avec le général Maele, qui était votre ami d'enfance, qui vous a facilité l'entrée.
Non, moi je lui ai simplement fait comprendre que ça ne sert à rien d'arrêter le fleuve Congo. Par exemple, personne ici ne peut aller dans le fleuve et avec ses bras arrêter le débit du fleuve Congo. J'ai voulu simplement lui dire que nous autres, nous représentions une force populaire. Donc le progrès du peuple, c'est ce que nous incarnions. Et lui, en tant que militaire, il peut tout faire, mais il ne pourra pas, avec ses deux bras, arrêter la force du fleuve Congo que nous représentions en ce moment-là. C'était un langage imagé, mais que je devais lui dire. C'est un ami d'enfance, donc on se parle, et d'autant plus qu'on a renoué avec lui. J'ai renoué avec Maïele quand il était venu à Paris, étudier donc à l'école militaire là-bas à Paris, je crois en 1992. Et comme on est des amis d'enfance, de toute façon on était comme des frères. Lui, il savait qui j'étais, et moi, je savais aussi qui il était. Mais on se respectait mutuellement. Et là, je lui ai fait comprendre que ça ne servait à rien d'arrêter la force du fleuve Congo.
Vous avez préconisé un entretien direct entre le général Maïli et Laurent Désiré Kabila.
Alors, ils n'ont pas. Donc, il y a eu ça, mais il y a eu des intermédiaires par lesquels c'est passé. Donc, il y avait d'autres intermédiaires. Moi, c'était ça.
L'ambassadeur des États-Unis.
Ah non, pas les non, nous on n'a jamais traité avec l'ambassadeur des États-Unis. C'était des soldats congolais, des officiers de phase, des ex-phase comme je dis en ce moment-là, des ex-phase qui étaient en contact avec nous. Et parmi ces ex-phase, il y avait évidemment Maïel était là de la partie. Mais l'ambassadeur des États-Unis, c'était...
L'ambassadeur Simpson n'a pas joué un rôle dans cet entretien, ce contact entre...
Il faut savoir que les Américains, c'est eux qui dirigeaient le Congo, effectivement. Donc, politiquement, c'est eux qui dirigeaient. Donc, idéologiquement et tout, c'était les Américains. Donc, eux, ils voyaient, non pas... Ils n'avaient pas une courte vue. La navigation à vue, ça, c'est pas le fait des Américains, ni des autres Occidentaux. Donc, eux, ils voient des choses au-delà de ce qui se fait maintenant. Les Américains, ils ont la même mise, ils avaient la même mise sur l'armée congolaise. Alors, à ce moment-là, ils pouvaient dire, ils savaient qui peut faire quoi dans l'armée congolaise. Et ils pouvaient prendre langue avec n'importe qui. Donc, que les Américains aient pris langue avec le général Maïri, de leur côté, ça, c'est leur problème. Mais c'était une simple coïncidence à travers les relations que j'avais, que j'entretenais avec le général Malé, pour lui faire comprendre que ça ne servirait à rien
de résister.
Exactement. Et il a compris cela.
Il a compris cela, mais après, il s'est fait tuer pour trahison par ses gardes.
Ouais. Non. Lui, c'est ça, moi, j'appelle la naïveté. Hein. C'était un peu la naïveté qu'en ce moment où il était engagé comme ça, qui est au camp Tchati, les militaires congolais, commençaient, donc les gens de la DSP, commençaient à se mutiner en quelque sorte, que lui, en tant que commandant en chef des ex-phases, qu'il aille là-bas. Avant d'y aller, il devait quand même envoyer ne fût-ce que des émissaires. Et ça, il n'a pas fait. Il préférait aller là-bas pour parler parce qu'il se faisait respecter quand même par les gens dans son armée.
Là-bas, on savait qu'il avait déjà trahi, qu'il était en contact avec vous. en quelque sorte. Vous êtes un peu responsable de sa mort.
Non. Le problème, c'est que les gens là, pour, comme on dit, hein, qui n'est pas dans cette situation-là, c'est le jésuitisme, comme on dit. C'est-à-dire qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'abattre.
Jean-Baptiste Moulemba, le 17 mai 97, Kinshasa tombe entre les mains de l'AFDEL, des nouveaux dirigeants de l'AFDEL qui arrivent. C'était quoi votre sentiment ce jour-là?
Nous sommes arrivés à Kinshasa le 18, et puis à partir du 19, on a fait une conférence de presse à l'hôtel Invest là-bas, enfin à la RTNC, et c'est comme ça que c'est parti. Alors on devait s'occuper de l'action, de la normalisation de la vie, de la vie dans la vie de Kinshasa et tout. Alors, et puis il fallait quand même mettre sur pied des structures, et surtout des structures politiques. Donc on a commencé par créer un noyau, et chercher à créer un noyau d'un futur parti politique congolais. Et moi j'étais dans la commission qui s'occupait justement de la rédaction des textes constitutifs de ce futur parti. On siégeait sous la direction de Bouguera, on était à la primature, c'est là où on était. Et puis, comme il y avait un désordre dans la ville ici, les gens prenaient des maisons, prenaient des voitures et tout ça. Alors, le camarade de ce Kabila a dit, non, Jean-Baptiste, occupe-toi, normalise un peu cette vie, cette situation, il faudrait empêcher cette anarchie.
Et c'est comme ça que l'idée de la création de l'OBEMA est venue.
Non, l'OBEMA, l'idée est venue depuis Goma. C'est depuis Goma qu'on a créé l'OBEMA en quelque sorte.
L'office de Biyama Laki.
Oui, l'idée, le principe a été donc à partir de Goma. C'est comme ça, à partir de Goma, qu'on avait lancé la confiscation des biens de Mobutu de l'étranger en Suisse.
Alors, M. Jean-Baptiste Moulemba, avant d'entrer en profondeur sur le dossier OBEMA, on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente? Je sais que vous êtes un grand percussionniste. Voilà. Bon. Vous avez joué dans l'orchestre de M. Nimi à Bruxelles.
Nous étions dans...
Vous étiez manager.
Moi, j'étais plus dans l'administration et tout ça, dans l'organisation. Mais en même temps, je jouais sous la tumba, donc j'étais percussionniste dans l'orchestre Yéyé National.
Ça veut dire que vous aimez la musique?
Ah oui, j'ai été musicien.
Quelle chanson vous ferait plaisir en ce moment, M. Jean-Baptiste Moulemba?
Mais je ne sais pas si vous avez cette chanson. Moi, je vous dirais avec la chanson de notre orchestre, Lomonga. Je ne sais pas si vous l'avez. Lomonga, c'était chanté par l'orchestre Yéyé National et en hommage à Lumumba Patrice. Donc,
Mimi, est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout.
Lomonga, Lomonga. Alors, dans ces conditions, il faut chanter une chanson, je ne sais pas si vous avez, Ngonga Ebeti de Patrice Lumumba.
Ngonga Ebeti de Patrice Lumumba, c'est lui le compositeur?
Non, Kabasele.
Ah, Kabasele. D'accord, de Kabasele.
Ouais, ouais.
Alors, Jean-Baptiste Moulemba, si on ne trouve pas la chanson Ngonga Ebeti de Kabasele, on va vous proposer autre chose. Hein.
Ah, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous pouvez faire. Indépendance Tcha-Tcha, si vous
par
avez.
Par exemple, oui, voilà. Indépendance Tcha-Tcha. Ouais. Voilà, on va vous proposer ça pour votre plaisir, mais également pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment. Je rappelle, partout en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet, www.radiorapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Indépendance Tcha-Tcha, sans oublier, au Kinshasa, Tcha-Tcha.
Sore con abrazos. De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Baptiste Moulemba, compagnon de Musée Laurent Désiré Kabila et ancien PDG de l'Office des biens mal acquis. Alors, on va parler de l'Office des biens mal acquis. Vous avez dirigé cette institution de l'État pour récupérer tous les biens de l'État qui étaient entre les mains de certains particuliers.
D'accord. Disons que, comme j'ai dit, l'idée, le principe a été acquis à Goma. Février ou bien mars 97. C'était les camarades de Che Okitundu, de Mofike, Mi-José Mutombo, Célestin Luangi et moi-même. Nous étions en train de discuter de ça. On a dit non, il faudrait quand même marquer un coup, montrer que nous sommes en train de combattre un régime qui est pourri. Alors on doit commencer par saisir les biens. Quand on va prendre le pouvoir, tous les biens illicites devraient être confisqués. Alors, quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, il fallait donc procéder donc à la généralisation de cette action. D'où, il fallait créer un office qu'on a appelé Office des biens mal acquis, qui devait d'abord commencer par saisir provisoirement les biens en question, passer devant les cours et tribunaux pour organiser alors la confiscation de ces biens. Alors, au départ, donc, on a commencé par saisir provisoirement et c'est le ministre de la Justice qui procède à la saisie provisoire. C'est pas moi, c'est pas le directeur de l'OBEMA. Le ministre de la Justice ayant saisi le bien, il confie la gestion ou bien la garde du bien à l'Office des biens mal acquis. Donc nous étions là plus pour la garde des biens saisis par le truchement du ministre de la Justice.
Mais on vous accuse d'avoir fait ça aussi un peu dans l'anarchie. On saisissait n'importe comment, même quand un propriétaire, par exemple, avait tous ses documents, on saisissait juste parce qu'il a travaillé avec Mobutu, qu'il était proche de Mobutu. C'était un peu comme une chasse aux sorcières.
Voilà, c'est ça que les gens pensent. Mais je vous dirais une chose, quand moi, avant de prendre fonction, j'ai parlé par exemple de la période, parce que l'OBEMA a été créé à partir du 15 juillet 1996. Mais entre le 17 mai et le 15 juillet, les gens qui sont venus, chacun faisait sa loi. Les gens de la police, ils avaient leur milice pour aller prendre les maisons. Les gens de l'ANR, les gens de l'armée et tout. Laurent Désiré Kabila a dit qu'il faut mettre un terme à cette anarchie. Jean-Baptiste, j'ai été désigné à la tête d'une commission. L'OBEMA n'existe pas encore. La commission pour réorganiser tout ça. J'ai commencé, alors pacifiquement, à aller négocier avec chaque groupe, l'armée, la DEMIAP, l'ANR, la police, pour leur demander de cesser. Que désormais, il y aura un bureau qui s'occupera de ça. Et celui qui voudra avoir une maison devra passer par ce bureau. Je suis parvenu à remettre de l'ordre dans cette affaire-là, je crois, fin juin. D'autre part, on crée l'OBEMA. Je vous donne la procédure ici que c'était le ministre qui saisissait.
Ouais.
Mais il faut savoir que auprès du parquet général de la République existait une commission des biens mal acquis depuis 1992. C'est bien, une commission des biens mal acquis qui fonctionnait auprès du parquet général de la République, donc le top niveau de la justice congolaise, parquet général de la République, donc du procureur général de la République, si vous voulez. Eh bien, là, ils avaient dressé une liste de 122 noms dont les biens devaient être confisqués. Donc, le parquet général de la République a remis cette liste au président de la République, qui l'a évidemment au ministre, donc au ministre de la Justice. Et moi, on m'a remis la liste de ces 122 noms. Pour que tes biens soient saisis, il faut que ton nom se trouve dans cette liste. Si ton nom ne se trouve pas dans la liste, et si par malheur, les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, avant cela, il y avait l'anarchie, on te restitue les biens. Je ne veux pas citer les noms des gens auxquels personnellement j'ai remis les biens parce que leur nom ne figurait pas sur la liste. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, ah mais... madame ou monsieur, mais votre nom ne se trouve pas sur la liste, donc vous allez nous excuser et on fera tout pour que vous récupériez vos biens. J'ai des noms.
Oui, vous avez aidé, alors, vous avez aidé peut-être ces gens-là à récupérer leurs biens, mais c'était pas facile de récupérer ces biens.
Non. Parce que quand on prend la décision de restituer les biens, on fait un papier, on avait des policiers. Des militaires plutôt.
Mais certains se sont retrouvés dans ce cas-là, mais vous leur donnez la police, par exemple, pour les aider à les récupérer la maison. Lorsqu'ils arrivent là, ils trouvent certains officiels ou autorités de l'AFDEL. Donc, difficile de déloger ces gens-là pour occuper sa maison.
Non, c'est-à-dire que les gens qui étaient là, si c'est difficile, donc ils avaient des problèmes parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus de l'intérieur, qui n'avaient rien ici, qui ne connaissaient rien ici, c'est ça. Ou bien ils allaient dans les hôtels ou bien quoi. Alors, à ce moment-là, on devait les loger, les gens qui étaient à l'intérieur, et on faisait tout pour les loger. Voilà. Mais si moi, personnellement, quand j'étais à la direction de l'Obéba...
Vous les logiez, on arrachait les maisons aux gens?
Ah oui, les gens dont les maisons doivent être arrachées, on les arrachait. Ah ça, c'est sûr, puisqu'il y avait la liste de 122 noms. Et ces gens-là qui figuraient sur la liste de 122 noms, ils n'avaient pas une seule maison. Ils en avaient des dizaines. Et alors, donc, on pouvait arracher ces biens-là parce qu'on était couvert par la procédure. Donc, la liste, d'abord, il faut voir la liste. La personne se trouve bien dans la liste et on va saisir tous ces biens.
Et voilà. Presque une année après votre nomination à la tête de l'Obéma, vous avez été suspendu. C'était pour quelle raison?
Ça, je ne sais pas pour quelle raison. Moi, du jour au lendemain, j'étais là. On vient me dire que vous êtes suspendu pour certains. Alors, les raisons qui avaient été invoquées, anarchie et tout ça, alors que moi, je combattais l'anarchie bien avant l'existence même de l'Obéma. Et puis, la raison n'était pas vraiment connue. Il y a les autres qui disent que voilà, et ça aurait été très dangereux. Quand on a dit que moi, j'avais une milice privée. Bien entendu, moi je suis un partisan, un dirigeant du FLNC, on avait des combattants ici, mais nous, ces combattants se trouvaient dans l'armée congolaise, dans les facs. Ils étaient sous la direction des facs. Et moi, les militaires qui étaient avec moi, ce sont les militaires qui m'ont été donnés par les dirigeants des facs, la 50e brigade, et par la DEMIAP. Tout était...
Donc c'était infondé,
ça, parce que ces gens-là, ils avaient d'autres idées. Bon, ça, c'est tout à fait politique. Je n'en parlerai pas ici, mais vous savez, quand on fait une lutte de libération nationale, chacun vient avec ses objectifs. Nous, nous étions membres du FLNC, nous avons un idéal en tant que parti. Dans la mêlée qu'on était dans la lutte de l'AFDEL, il y avait du tout. Et surtout qu'il y avait par la suite Laurent Désiré Kabila qui avait, parce que tenant compte de certaines réalités, avait décrété la révolution, pardon. Donc il y a eu beaucoup de gens qui étaient là. Et chacun, c'est la lutte d'influence. Hein. Maintenant, les gens commencent à se battre pour essayer, par exemple, de se positionner. Personnellement, ça ne me disait absolument rien parce que moi, je ne me suis pas battu pour avoir un poste.
Mais pourquoi vous aviez disparu lorsque vous avez été suspendu?
Parce que on m'a
accusé de... Vous avez disparu et c'est votre femme, votre famille qui a payé les pots cassés, arrêtée, incarcérée.
Oui, mon épouse a été arrêtée, ma petite soeur a été arrêtée. Simplement parce que ça n'avait plus rien à voir avec les histoires de l'Obéma. C'était devenu chef de milice. Et chef de milice, c'est des risques qu'on prend. Et les gens qui s'occupaient de ça, les gens qui diffusaient ces nouvelles-là, Laurent Désiré Kabila ne connaissait pas tout ça. Chez Laurent Désiré Kabila, on lui dit que oui, Jean-Baptiste a volé 45 millions de dollars. Laurent Désiré Kabila se lève et dit, mais comment? Moi, je lui ai rien donné. Tu vois? Donc, il ne m'a rien donné. Quand j'étais à l'Obéma, je n'avais touché aucun radis du gouvernement, de l'État congolais. j'avais le décret, j'avais la procédure, les sociétés, les entreprises publiques devaient me verser les 5% de leur chiffre d'affaires et l'État devait me donner une subvention. Que dalle, je n'ai rien vu. Quand les gens disent à Laurent Désiré Kabila que Moulemba volait 45 millions de dollars, Laurent Désiré Kabila lui-même il est surpris. Il dit, mais comment peut-il voler 45 millions alors que moi je ne lui ai rien donné? Alors on invente, non, il a vendu des maisons.
Donc c'était des gens qui vous en voulaient, qui voulaient juste pouvoir partir
exactement,
de cette office.
Exactement, ils ont monté, donc ils ont mis des pots de bananes. Moi, j'étais le premier PDG nommé par décret présidentiel. Et l'office de biens mal acquis était un décret loi, c'était une loi qu'il a instituée.
Vous avez été blanchi?
Ah oui, le tribunal a jugé, il y a non-lieu, tout ça c'était du blabla, et le jugement est là. Ah, le jugement est là. Et puis après, j'ai été nommé député par Laurent Désiré Kabila. Donc, pour faire partie de la CLPT, donc le Parlement de transition.
De transition à Lubumbashi.
Et puis, j'ai été encore nommé en 2003 de nouveau député de la composante gouvernement par le président Joseph Kabila. Donc, moi, personnellement, il y a des gens qui pensaient que, moi, je ne suis pas un aigri d'abord.
Mais l'Obema qui n'existe plus, malheureusement.
Mais l'Obema a été dissous illégalement. Parce que l'OEMA ayant été créé par une loi ne peut être dissoute que par une loi. Or, qu'est-ce qu'on a vu? C'est un décret du Premier ministre. Et le Premier ministre ne représente pas la loi. Il est du pouvoir exécutif. Et l'OEMA a été institué par un décret loi. C'est-à-dire par une loi. Les gens ont fait appel. Mais nous sommes au pays, hein. Donc c'est ça. Donc moi personnellement, bon, en ce moment-là, j'étais déjà parti de l'OBMA.
Aujourd'hui, vous faites quoi vous?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire la politique. Il y a la politique cinéma, la politique galerie, pour qu'on sache que vous existez politiquement. Et il y a la politique pour réaliser un idéal, pour atteindre un idéal, et qui nécessite des préalables.
Et vous êtes dans le troisième cas, le dernier cas?
Nous sommes dans ces cas-là. Nous autres, nous sommes de ceux-là qui sont convaincus que la lutte de libération, parce que tant qu'un peuple n'est pas souverain, comme disait Patrice Lumumba, après tout, à la base, j'ai dit, nous sommes des Lumumbistes. Laurent Désiré Kabila, c'est un Lumumbiste.
Le peuple congolais n'est pas souverain?
Le peuple congolais, j'ai dit simplement que le peuple congolais, formellement, le pays est indépendant, mais fondamentalement, le pays n'est pas indépendant parce qu'il y a encore des forces exogènes qui interviennent dans la détermination du destin de ce pays.
Alors, une dernière petite question. Monsieur Jean-Baptiste Moulemba, vous êtes membre de la majorité présidentielle?
Oui, je suis membre du collectif des patriotes congolais qui fait partie de la majorité présidentielle.
Merci beaucoup. Encore une fois, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Jean-Baptiste Moulemba.
C'est moi qui vous remercie.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Jean-Baptiste Moulemba Makoubi, ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila, ancien PDG de l'Office des biens mal acquis, OBMA en sigle, qui n'existe plus. Merci à Mimi Kindou qui est à la prise de son. Au micro, Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.